It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 5 avril 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C., la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de l'effondrement d'un pont autoroutier à Baltimore, ici aux États-Unis, et ses conséquences sur les activités économiques, sociales et commerciales. Le pont Francis Scott Key à Baltimore s'est effondré au petit matin du 26 mars dernier, après avoir été percuté par un grand navire, ce qui a entraîné la fermeture du port de Baltimore, qui a géré l'an dernier 1,1 million de conteneurs équivalent 20 pieds, d'après l'Association du commerce maritime du Pacifique. Pour analyser cette actualité, nous aurons au bout du fil Shannon Lee, qui réside justement à Baltimore. Nous aurons également Ditala, opérateur économique, il est importateur-exportateur. Et puis Carole Grasse-Mbarga, ambassadrice globale de la paix des Nations Unies, qui vit ici dans la région. Nous les retrouvons dans quelques instants pour les échanges. Retrouvons immédiatement à Baltimore Shannon Lee. Shannon Lee, bonsoir.
Comment allez-vous, Mamadou?
Très bien, merci. On espère que vous aussi. Le président Joe Biden se trouve actuellement à Baltimore, hein, pour visiter cette ville qui a connu le drame que nous avons mentionné, l'effondrement de ce pont. Alors, Shannon Lee, vous qui vivez à Baltimore, pour nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde, parlez-nous un peu de Baltimore. C'est quoi cette ville Baltimore? Qu'est-ce qui fait sa particularité?
Je dirais que Baltimore, c'est une ville qui est pas vraiment petite. Elle est beaucoup connue sur son architecture, surtout leur downtown, surtout Inner Harbor et puis False Point. Alors, ça fait vraiment l'histoire de Baltimore. Et aussi, Baltimore est connu sur son port. Qui est l'un des ports les plus vitaux sur, je dirais, sur tous les États-Unis. Ouais.
Alors, Carole Grasse-Mbarga, vous vivez dans le DMV, la région de Washington, Maryland, Virginie. Alors, vous, si on vous demandait de parler de Baltimore, qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette ville?
Ok, pour l'académicienne que je suis, déjà bonjour membre de l'équipe et aux panélistes. Nous savons que Baltimore est très célèbre à cause de l'université Johns Hopkins University, qui produit beaucoup de personnel de la santé. C'est une des meilleures facultés de médecine de tous les États-Unis. Nous savons aussi que la ville de Baltimore, elle est la place de naissance de l'auteur Edgar Allan Poe, qui est un grand écrivain américain. Nous avons par exemple aussi le grand aquarium de Baltimore qui accueille chaque année des millions de visiteurs juste pour booster l'économie de l'État du Maryland. Baltimore est aussi très célèbre pour ses crabes. On appelait l'État du Maryland a cette particularité d'offrir des crabes bleus. Donc, lorsque vous allez à Baltimore en tant que touriste, vous allez déguster les meilleurs crabes de tous les États-Unis.
Alors, retrouvons Ditala, qui est opérateur économique, importateur, exportateur. Alors, on a déjà assez parlé de Baltimore. Il y a Shannon Lee qui parlait du port de Baltimore. Vous qui êtes importateur, exportateur, qu'est-ce que vous direz de Baltimore, sa particularité?
Bonsoir tout le monde. Comme elle vient juste de le dire, Baltimore, c'est très important. C'est une très belle ville, d'ailleurs. Et c'est très important pour nous qui faisons import-export de DMV vers l'Afrique. Donc, le port de Baltimore est très essentiel. Donc, depuis qu'il y a cet accident-là, donc, tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais bon, j'espère qu'il y aura une solution. Voilà.
Alors, retrouvons Shannon Lee qui réside à Baltimore. Alors, que s'est-il passé ce 26 mars-là? Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de l'effondrement du pont? Comment est-ce que vous avez vécu cette journée et les suivantes? Racontez-nous, Shannon Lee.
Je dirais que l'accident qui a fait que le pont s'est effondré, c'était premièrement ça a créé un peu de je dirais la terreur un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui a causé ça. Est-ce que c'était criminel ou bien c'était vraiment un accident? Il y a eu beaucoup d'investigations, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu retrouver les survivants ou bien les morts. Je dirais que la sécurité des infrastructures a été vraiment la question qui a beaucoup dominé ces derniers jours à Baltimore. Et je dirais qu'on commence à voir la solidarité envers les victimes et leurs familles.
Alors, Carole Grasmarga, vous qui vivez dans la région, est-ce que vous avez ressenti l'impact de cet accident, de ce drame? Il faut dire que c'était quand même un pont très important. Beaucoup d'automobilistes passaient par là. Quel est l'impact que vous ressentez de ce drame-là?
Ok. Déjà qu'au niveau psychologique, lorsque nous conduisons pour aller, par exemple, au travail, ceux qui doivent accompagner les enfants à l'école, depuis ce drame, chaque fois que vous traversez un pont, c'est comme si vous avez ce qu'on appelle ici PTSD, qui est en anglais, c'est le Post-Traumatic Stress Disorder. Et ça veut dire que c'est comme si vous avez des flashs et tout le monde a peur. Donc, il y a déjà d'abord cet impact psychologique, mais aussi au niveau des embouteillages, parce que le pont, justement, avait été construit, je pense, en 1977, pour pouvoir réduire l'influx de trafic. Vous voyez, pour pouvoir diversifier les sorties entre la ville de Baltimore, la reliant aux autres comtés dans l'État du Maryland. Donc oui, nous ressentons justement le manquement de ce trafic, surtout lorsqu'il faut emprunter la route qui va vers le Inner Harbor. C'est totalement une catastrophe hein, au niveau des transports.
Alors, Dinetta, vous êtes certainement rendu hein, à Baltimore, ou vous avez essayé peut-être d'aller à Baltimore, puisque vous êtes opérateur économique, importateur, exportateur. Comment ça se passe à la circulation? Comment ça s'est passé les jours qui ont suivi l'accident? Qu'est-ce que vous avez constaté en allant à Baltimore ou lorsque vos connaissances y sont allées?
Oui, bon, mais moi personnellement, depuis l'accident, je ne me suis pas rendu à Baltimore parce que déjà, je n'étais pas là, j'étais au Sénégal durant l'accident quand je suis arrivé il y a 15 jours. Mm-hmm. Donc, j'ai entendu d'après mes amis avec les news qu'il you know, y a eu vraiment quand même un changement. Mais du côté logistique aussi, je sais qu'il y a beaucoup de choses parce que j'ai des amis qui avaient même déjà entamé d'envoyer leurs conteneurs, donc qui étaient déjà au port à l'instant même de l'accident. Donc, du coup, ils sont en train de voir avec les autorités de Baltimore comment changer le route. Donc, d'après ce que j'entends, certains vont essayer de passer par Norfolk, qui est une autre option, et New Jersey pour l'instant. Voilà. C'est ça.
Oui. Alors, Sean Lee, après l'effondrement du pont, hein, les autorités ont décidé de fermer le port de Baltimore, justement, d'où partent de nombreux conteneurs, de nombreuses marchandises pour l'Afrique et ailleurs dans le monde. Alors, est-ce que vous avez fait un tour de ce côté-là? Est-ce que vous voyez un engorgement au niveau du port? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là?
Alors, je dirais que fermer déjà le port, c'était vraiment ok. Oui, c'est bien pour la sécurité. C'est bien pour je sais pas leur politique. Ça peut être explicable, mais je dirais sur le côté de l'économie régionale ou bien locale, c'est vrai. Je crois que ça devient plus dur. Déjà le carburant est cher et puis le port ferme. Donc je crois que c'est beaucoup. Ça va commencer à beaucoup jouer sur l'économie locale.
Carole Grasmarga, justement, la fermeture du port, il y a beaucoup de personnes qui travaillaient là-bas, qui sont désormais en chômage technique. Il y a aussi, on imagine, hein, un impact pour d'autres activités connexes, par exemple les hôteliers, beaucoup d'autres activités qui pourraient être impactées. Quelle est votre analyse sur les conséquences d'un tel accident?
Ok. De mon côté, hein, je pense que ce sont les conséquences sont juste désastreuses. Parce qu'il y a beaucoup de Baltimoriens, ou bien ceux qui habitent même dans la ville du Maryland, ou bien dans le DMV, qui ont vu leurs activités interrompues. Par exemple, au niveau du tourisme, sans avoir l'accès à ce pont, il y a par exemple les restaurateurs, les propriétaires des hôtels qui sont en train de subir l'impact, le coût financier depuis la fermeture de ce pont. Mais ce qui est bien comme solution, c'est parce que le gouverneur Westmore, il a déclaré l'état d'urgence, justement pour la ville de Baltimore, et puis le maire de Baltimore aussi a renchéri. C'est pas la première fois que les États-Unis, Mohamed Rumfa, subissent une crise pareille. Nous nous rappelons avec les événements du 11 septembre à New York, il y avait eu l'état d'urgence, mais moi je crois en la force mental des dirigeants de ce pays et du peuple américain, de la communauté immigrante. Comme on dit, what doesn't kill you makes you stronger. Donc ça veut dire que au niveau des populations, avec la déclaration d'état d'urgence, avec le président qui s'est déplacé sur les lieux du sinistre, justement pour rassurer les populations, rassurer les propriétaires de business, je sais que notre organisation ici est le FIMA, va sûrement avoir de l'argent mis de côté pour pouvoir compenser d'une certaine manière les pertes qui sont catastrophiques pour les business locaux. Et avec la force mentale de que l'on connaît aux Américains, l'esprit de résilience, nous allons, en tant que pays, nous révéler plus fort et reconstruire le pont. Nous allons le reconstruire.
Alors, dites à vous qui êtes opérateur économique, vous avez eu à expédier hein, vos conteneurs à partir de Baltimore. Vous connaissez certainement le port de Baltimore. Dites-nous, qui travaille dans ce port? Quelles pourraient être les activités impactées hein, et au port et peut-être aux alentours du port? Quelles peuvent être les conséquences pour un opérateur économique comme vous?
Oui, pour nous, bon, c'est vrai, c'est dommage que il y a eu cet accident et puis on regrette vraiment tous les morts qui ont perdu leur vie. C'est vraiment triste. Donc, mais on dit que dans la vie, c'est on vit la vie, mais c'est Dieu qui décide, tu vois, non? Donc, nous, en tant qu'opérateur économique, je suis un croyant, je veux dire que à chaque chose, there is the will, there is the way, comme on en anglais, there is the will, there is the way. Tu vois, ça veut dire que donc, à chaque fois qu'il y a une volonté, tu vas trouver un chemin. Donc, certes, c'est vrai, c'est difficile, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, on avait déjà programmé des shipments. Donc, on va essayer de voir si on peut passer par New Jersey ou bien Norfolk. Mais pour l'instant, je pense que New Jersey, c'est un peu plus proche. Donc, from New Jersey, ça va nous coûter un peu plus, c'est vrai, parce que New Jersey à Baltimore, c'est un peu plus, c'est loin. Mais bon, we gotta keep it going, comme on dit. Il faut trouver des alternatives. Et puis, on verra. Et on espère bientôt que tout va s'arranger. Comme notre sœur l'a dit, donc, ici, il y a le mental. Donc, everything will be okay, I believe, yeah.
Oui, vous avez par exemple, vous avez certainement des cas de personnes qui avaient déjà passé des commandes, qui attendaient des marchandises en provenance des États-Unis. Comment est-ce qu'on gère ces cas-là? Est-ce que il faut expliquer à ces gens, il y a des surcoûts? Quel est l'impact sur vos activités et les relations avec vos clients? Comment vous gérez ces situations?
Mais bon, si effectivement ça va nous impacter, parce que déjà, on avait déjà programmé de mettre notre shipment end of April, parce que tu vois, donc avec le shipment, you have to plan ahead, il faut planifier en avance, parce qu'il y a dans deux mois, il y aura l'Aïd, la fête de la Thalassie, qui est une grande fête en Afrique. Donc, le shipment d'avril était prévu pour que ça vienne avant la fête de la Thalassie, dans cette situation. Il faut, you know, on va trouver une autre alternative pour voir et puis expliquer les clients. Parce que dans le cas de force majeure, il n'y a pas, on n'y peut rien. Donc, on a to do our best, quoi. On va faire tout ce qu'on peut faire. Mm-hmm. Les clients, on les explique, ils vont essayer de comprendre. Parce que pas de notre, c'est indépendamment de notre volonté, en fait.
Ouais.
Donc, de ça, on dit ça. C'est ça, mais bon. On finit chez nous, everything will be okay.
Alors, Chen Yunli, vous qui êtes à Baltimore, Carole Grassenbarga le disait il y a quelques instants, hein, ce n'est pas la première fois que les États-Unis connaissent ce type de catastrophe. Alors, les États-Unis ont donc l'habitude de gérer ce genre de crise. Comment se passe la gestion de cette crise là-bas sur place? Est-ce que vous voyez les gens se mobiliser? Est-ce que vous voyez les autorités se déployer? Je rappelle que le président Joe Biden se trouve là-bas en ce moment. Comment est-ce que vous voyez la mobilisation sur place des autorités et même des populations?
Je crois que aujourd'hui tous les médias de Baltimore parlent que de ça. C'était premièrement c'est toujours effrayant, c'est toujours on veut toujours savoir qu'est-ce qui s'est passé. Déclarer l'état d'urgence était vraiment la meilleure idée et que le président déjà se déplace pour venir ici, ça montre l'importance que même l'État ou bien la fédération donne à cet événement qui s'est passé, à cet événement tragique. Je crois que les gens qui en souffrent le plus, ce sont les gens qui se déplacent de Baltimore à Dundalk ou bien de Dundalk à Baltimore. Je ne peux pas vraiment imaginer aujourd'hui leur struggle de se déplacer entre les deux communautés. Ça doit vraiment être très difficile.
Mais vous voyez quand même sur place les opérations de réparation, vous voyez les autorités se déployer quand même pour trouver une solution. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des échos?
Moi, personnellement, je n'ai pas encore passé là-bas pour voir, parce que ce n'est pas de mon côté. Mais dans les news, on voit qu'ils ont pu faire tout le rescue qui était nécessaire pour sauver les survivants et retrouver les morts et retrouver tout ce qui pouvait être sauvé ou bien ce qu'ils avaient besoin pour préparer le terrain et après reconstruire le pont.
Alors, Carole Grace Mbarga, les autorités se mobilisent, dont le président Joe Biden y est. Comment est-ce que vous jugez tout d'abord la décision du président Biden de s'y rendre? Et puis, vous l'avez dit, les autorités américaines ont l'habitude de gérer ce genre de crise. Comment est-ce que vous voyez, vous appréciez tout ce qui est fait en faveur des populations de Baltimore?
En tant que démocrate, hein, je ne peux qu'applaudir le leadership. Par exemple, le gouverneur Westmore, il est démocrate. Il fait des conférences de presse pour permettre que les populations du DMV et notamment du Maryland soient, ils ont des updates, ils ont des informations en temps réel sur tout ce qui se passe. Nous avons par exemple aussi le jeune maire de la cité de Baltimore, il est l'un des plus jeunes maires qui ait jamais été élu, monsieur Brandon Scott, bizarrement il porte le même nom que le pont. Oui, lui aussi, il est constamment et sur ses pages des réseaux sociaux pour rassurer les populations, pour rassurer les opérateurs économiques que oui, c'est une crise, mais elle est gérée. Donc moi, j'apprécie cela au plus haut niveau. Nous avons même eu le Congrès, les membres du Congrès, qui se sont déjà aussi rendus en visite officielle. Par exemple, le congressman Kwesi Mfume, qui est la ville de Baltimore tombe sous sa juridiction. Il participe au meeting avec les populations, avec le gouverneur, avec le maire. Et je pense qu'ils sont auprès du président aujourd'hui pour rassurer les populations. Parce que quand on ne se mente pas, c'est un traumatisme déjà de voir ce genre d'événement en live. Nous qui avons vu l'effondrement de ce pont en live, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et je suis aussi contente parce que l'État a mobilisé les moyens pour que les experts de la santé mentale soient à l'écoute des populations. Il y a le numéro 998 qui a été mis au service des populations pour que vous puissiez appeler si vous avez, par exemple, une crise d'anxiété lorsque vous traversez un pont. Ce sont des réactions qui sont tout à fait normales. Donc, en tant que démocrate, kudos au leadership américain. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons un leadership qui est proche des populations pendant les temps de crise, pas juste être à la télé pour raconter des discours. Donc, en tant que démocrate, je suis trop fier de rien.
Très bien. Alors, Shannon Lee, justement, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cet accident et de la manière dont cela est géré? Quelles sont les leçons pour les Américains et peut-être pour les autres pays qui nous observent?
Je dirais que être vraiment à l'écoute de la population est très, très délicat quand il s'agit bien sûr du leadership, comme elle vient de le dire. Ce qu'on peut en tirer, c'est que vraiment, il ne faut pas jouer sur... la sécurité ou bien la vie mentale des gens, parce que demain ou bien après demain ça peut redevenir un autre problème à gérer encore. Ce que je dirais même à propos de nos présidents africains, de voir comment les autres pays s'occupent des cas des tragédies comme Baltimore, et vraiment essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour la population qui les a élus.
Dites à vous qui êtes opérateur économique, quelles leçons vous tirez de ce qui vient de se passer, les leçons pour vous-même, opérateur économique, et peut-être pour les dirigeants d'ici et d'ailleurs.
Oui, mais bon, la leçon, c'est qu'il faut toujours, en matière de sécurité, ce n'est jamais assez. C'est pas souhaitable. Mais bon, je pense qu'il faut être plus vigilant du côté du travail. En ce qui concerne le port de bâtiment, mais il faut beaucoup de shipments évités. Donc, ce n'est pas des actes comme ça, ça n'est pas tous les jours. Mais si ça arrive aujourd'hui, c'est comme si c'est une catastrophe, en fait. Okay. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas. Every single day,
Alors, on va retrouver Carole Brasumbarga, le temps d'améliorer la connexion avec Judge Tala. Alors, Carole Brasumbarga, les leçons à tirer, vous avez déjà salué le leadership américain avec le président, les sénateurs qui se sont rendus. Est-ce qu'il y a d'autres leçons à tirer, par exemple, même pour les populations, pour la sécurité, on imagine qu'il faut pas seulement tout attendre des autorités?
Oui, au niveau de la communauté, par exemple, nous avons des town halls qui s'organisent pour essayer justement aussi de rassurer la communauté. Je pense qu'il y a un certain esprit de panique dans notre zone lorsqu'on doit traverser des ponts, ceux qui doivent traverser des ponts pour aller en Virginie, même si ce sont des ponts qui ne sont pas aussi grands que le Francis Scott Bridge. Donc, moi, je pense que la majorité des employeurs dans la zone du DMV ont tenu des conférences justement pour rappeler à leurs employés que c'est tout à fait normal s'ils sont touchés au niveau du côté de la santé mentale. Et moi, j'apprécie, je le dis encore, j'apprécie cette mobilisation. C'est ce que nous voulons voir du leadership. Et les États-Unis, on met toujours la barre très haute lorsqu'il faut assister les sinistrés. Nous l'avons vu avec l'ouragan Katrina, nous l'avons vu avec la tragédie du 11 septembre, nous le voyons encore aujourd'hui avec l'effondrement de ce fameux pont. C'est ce genre de leadership qui est proche des populations, avoir les ressources nécessaires pour les populations, organiser ce qu'on appelle crisis management team, des équipes de management de cette crise, qui donne des informations à temps réel, non seulement aux populations locales, mais même aux populations internationales. Parce que comme notre frère, il était au Sénégal, il n'était pas sur place, et il est opérateur économique. Lorsque quelque chose comme ça arrive, on veut un leadership au niveau du gouvernement qui nous donne des informations en temps réel, pas qu'on attende des mois ou bien on voit juste des coupures de journaux. Donc, vraiment du courage à tout le monde. C'est quelque chose qui est assez difficile, mais comme je l'ai dit, l'esprit américain, il est résilient. We are very resilient and we will go back.
Oui, le dernier mot à Shannon Lee, vous qui êtes à Baltimore. Vous n'avez pas peur de traverser des ponts, non? Je crois que la situation pour vous, aujourd'hui, psychologiquement, vous n'êtes pas atteinte, je crois.
Moi, je crois que depuis que ça s'est passé, je n'ai pas encore traversé un pont.
Voilà.
Je n'ai pas encore traversé un pont et je viens de réaliser que vraiment j'ai peur.
Voilà. Bon, on va souhaiter beaucoup de courage à toute la population de Baltimore, tous les Américains et tous nos auditeurs qui nous écoutent. Merci donc, c'est la fin de cette édition de L'Amérique et vous. Mouhamadou Koumpa, je vous remercie d'avoir écouté. Fatou Makala, Ali Masti était à la production. Merci à tous nos invités. On reste en contact sur Facebook et sur notre site web VOA.